Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Rémi Salomon, bonjour.
Bonjour, monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes néphrologue. Vous êtes chef du service de néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker. Enfant malade, vous représentez aussi, puisque vous êtes président de la commission médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris, vous représentez les médecins des 39 hôpitaux d'Île-de-France. Combien de médecins? Ça représente combien de médecins?
À peu près 13 000 médecins.
À peu près 13 000 médecins. Hier, Emmanuel Macron a reçu le conseil scientifique. Il était 17h. À 18h, visioconférence avec des réanimateurs de toute la France. Des décisions urgentes doivent être prises et vont être prises. Hier soir, sur BFM TV, Jean Castex, le Premier ministre, a déclaré « Le moment est venu pour envisager des dispositions pour l'Île-de-France ». Mais on ne sait pas quelles dispositions. On parle de deux solutions. Reconfiner l'Île-de-France le week-end, ou alors un confinement 7 jours sur 7, comme nous l'avons connu au mois de novembre. Quelle est la meilleure des décisions à prendre, docteur Salomon?
Je ne sais pas. Il y aura de toute façon, je pense, des décisions qui seront prises, car comme vous venez de le dire, je pense que le gouvernement a réalisé que là, on était au pied du mur et que si on ne faisait rien, on courait à la catastrophe. Donc, il faut faire quelque chose.
Là, il faut agir.
Il faut agir. Il faut agir car depuis quelques jours, le nombre d'entrées en réanimation. Alors, vous avez dit réanimateur de toute la France. Les Français savent que toute la France n'est pas logée à la même enseigne. Trois régions sont dans le rouge. Et l'Île-de-France est encore plus dans les trois, celle qui est probablement la plus en difficulté. On a toujours été en difficulté, je le redis quand même. Après, depuis la deuxième vague, on est resté sur ce haut plateau et il y a eu plus de morts par la Covid en France. Là, je parle depuis la deuxième vague jusqu'à maintenant que première vague. Puis deuxième vague, il y a eu à peu près 28 000 morts sur la première vague, 23 000 morts sur la deuxième vague, et on est à 40 000 morts depuis. Donc c'est pas une vague, c'est un plateau meurtrier.
Oui.
Meurtrier. Les réanimations en Île-de-France restent pleines. Alors elles se remplissent de plus en plus et on arrive à saturation. Mais on n'a jamais eu ce que l'on a vu. On a vu des courbes d'évolution des hospitalisations qui étaient plutôt un peu à la baisse même au mois de février. Et on se rassurait avec ça. On s'est dit on gagne du temps. Oui. C'est ce qu'on disait à l'époque. Fin janvier,
donc il y a urgence.
Fin janvier, donc il faut y aller. Maintenant il faut y aller parce
maintenant,
que
il faut
on a
y
plus
aller.
Le choix. Alors vous me posez la question quelles mesures faut-il prendre. Ça n'est pas à moi.
Non.
Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que ça n'est pas à moi de prendre la décision. Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures suffisamment importantes. La marge de manœuvre.
Oui, mais ce n'est pas à vous, Rémi Salomon, de prendre la décision, mais c'est à vous d'analyser la situation.
Oui, bien sûr.
Donc Rémi Salomon, il y a deux décisions possibles. Il n'y en a pas d'autres. Un confinement le week-end ou alors un confinement la semaine. Il n'y en a pas d'autres. Moi, quelle est, selon vous, la solution la plus efficace?
Alors, encore une fois, je pense qu'il faut réduire les contacts au maximum. Donc, si c'est un confinement le week-end, il faut que, en semaine, le virus continue de circuler. Les gens continuent de se voir au travail.
Oui.
Les gens continuent de se voir dans les commerces. Et s'il y a trop de, et donc ça, il faut que ça se réduise aussi. On peut pas résumer juste des mesures au week-end. Ça n'aurait pas de sens. Donc il faut faire quelque chose pour la semaine aussi. Alors on prend des mesures.
Mais on est déjà en couvre-feu la semaine, en Île-de-France.
Oui, écoutez, le couvre-feu ne suffit pas. Vous avez raison de rappeler qu'on est en couvre-feu. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais vous dire. La marge de manœuvre est assez étroite finalement.
Oui.
Donc on est en couvre-feu, mais les gens dans la journée continuent de se voir au travail beaucoup.
Donc confinement.
Donc il faut du télétravail beaucoup plus. Alors. Le mot fait peur.
Oui.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on tourne autour du pot comme je suis en train de le faire. Mais je pense qu'il faut effectivement réduire les contacts 7 jours sur 7. Beaucoup plus de télétravail, moins de monde dans les commerces. Il faut prendre plus de temps, faire la queue, faire de la distanciation physique. Donc soit on ferme les commerces comme on l'a fait à un certain temps, soit ils restent ouverts, mais alors on prend plus de distance. On se contamine très peu à l'extérieur, je rappelle.
Oui, très peu.
Une étude récente de l'Institut Pasteur montre que les contaminations en dehors du cercle familial, c'est 80% à l'intérieur fenêtre fermée, 15% à l'intérieur fenêtre ouverte. Ça change quand même beaucoup de choses, donc ça dit quelque chose ce que l'on doit faire quand on est quelque part à l'intérieur. Et puis c'est 5% seulement à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut adapter les mesures à ces études hein, qui disent des choses importantes sur les modes de contamination. Donc quand on est dehors, finalement, on se contamine assez peu. Alors la question pourrait être, je pense qu'il faut laisser les gens sortir, mais par contre, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent réduire au maximum leurs contacts, c'est-à-dire ce que certains appellent la bulle sociale, c'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir des rencontres excessives. C'est pour ça que le week-end, faire un confinement, c'est aussi quelque part empêcher les gens d'aller chez des amis ou d'aller dans la famille élargie. Il faut que les gens comprennent que il serait bien idéalement qu'ils puissent comprendre, hein, qu'ils peuvent sortir. Oui. C'est bien même pour le moral de sortir, de s'aérer. Mais de ne pas aller les uns chez les autres.
Rémi Salomon, et puis il faut donner une date de début et une date de fin. C'est indispensable. Oui, des perspectives, indispensable.
Vous avez complètement raison. Ce qui nous met encore plus à mal, oui. C'est l'incertitude. C'est vrai que cette incertitude, elle est terrible. Alors, il y a des choses qu'on peut prévoir, d'autres qu'on ne peut plus difficilement, qui sont plus difficiles à prévoir. Ce qui va changer la donne dans les semaines et les mois plutôt qui viennent, c'est les vaccins. Et c'est vrai qu'on a vu, hein, les vaccins, il y a un certain nombre d'événements que nous n'avions pas prévus. On va en parler. Mais même les livraisons. Le nombre de doses qui étaient annoncées initialement, finalement, on voit que ça repart à la baisse. Donc, il y a cette incertitude. Mais moi, je suis par contre sûr d'une chose, c'est qu'on aura beaucoup plus de vaccins d'ici l'été.
Oui.
Quel va être le calendrier exact pour répondre à votre question? Je ne sais pas, mais nous allons avoir beaucoup plus de doses à partir probablement du mois d'avril
Allons revenir sur les vaccins flambées épidémiques. J'ai vu quand même quelques médecins qui disent non, il n'y a pas trop de flambées épidémiques. Il y en a eu. Flambée épidémique.
Il n'y a pas de doute.
Alors, il y a, c'est finalement... Si je comprends le gouvernement, si je comprends Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est ce qu'a dit finalement le Conseil scientifique. Vous avez vu le dernier avis du Conseil scientifique. Il faut des mesures fortes, précoces et territorialisées. Fortes, précoces, je dis bien précoces. Ça veut dire qu'on aurait pris du retard en Île-de-France, par exemple, les Hauts-de-France.
Oui, comme d'autres, vous savez, hein, on s'est exprimé depuis le mois de janvier, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc non, ça n'est plus précoce. Là, maintenant,
c'est
au pied du mur. Là, maintenant, il y a urgence à y aller. Il ne faut pas attendre 10 jours de plus.
D'ailleurs, agir rapidement, c'est ce que dit le Conseil scientifique, comme vous.
Dans sa dernière note qui n'est pas encore publiée, mais qu'on a entendu parler. Oui. Là, il se place plutôt dans un autre contexte. Le Conseil scientifique dit, quelque part... On aurait dû faire plus tôt, il faut anticiper. Oui. Donc nous ne l'avons pas fait, dont acte. Hein. On a fait, certains parlent de Paris, disant que les mesures qui étaient là en janvier-février suffiraient à passer le cap. Manifestement, elles ne suffisent pas. Le nombre d'entrées en réanimation en Île-de-France et dans les Hauts-de-France et PACA augmente régulièrement et augmente plus vite de jour en jour. Donc on arrive à une situation qui risque, malgré les déprogrammations, on risque d'être un débordement si on ne fait pas quelque chose maintenant.
Oui, le Conseil scientifique demande aussi parallèlement la réouverture des lieux d'enseignement, les universités ou les facultés, les événements à caractère culturel pourraient être organisés sous protocole sanitaire strict, vous aussi?
Alors, je pense que on est dans une situation critique où il faut probablement faire le maximum pour freiner. Je pense qu'il faut appuyer au maximum sur la pédale de frein. Et donc, effectivement, rouvrir les universités est probablement une chose nécessaire à court terme. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le moment tout de suite maintenant de les ouvrir, mais il faudrait le faire assez vite.
Donc, il faut donner
les étudiants. Il faut donner
dans 15 jours.
Là, il faut donner une échéance. 15 jours. Oui. Moi, je sais pas, mais il faut donner une échéance parce que c'est vrai que les étudiants, les jeunes, sont probablement ceux qui sont en plus en difficulté. C'est l'âge de la vie où on a besoin des rapports sociaux. Si on n'a pas ces rapports sociaux, on est jeune adulte, on est perdu. Et le taux de détresse morale, de tentative de suicide, d'anxiété, de crise est tellement important. Moi, je suis pédiatre aussi. Je parle avec mes collègues pédopsychiatres qui ont vu exploser le nombre de tentatives de suicide chez les adolescents, les jeunes adultes. Donc, il faut absolument leur donner une perspective. Oui, il faut certainement rouvrir les universités assez rapidement. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on est dans une situation critique, mais assez vite avec une échéance.
Et les cantines scolaires? Est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes? Vous êtes pédiatre, encore une fois. Est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes? On parle un danger, peut-être pas à l'école, mais dans les cantines,
Il faut distinguer les différents âges. L'école primaire, avant 10 ans, les enfants contaminent peu. Un peu plus avec le variant britannique, c'est vrai, comme toutes les tranches de population, et peut-être un peu plus, on l'observe là, mais ça reste quand même assez marginal. Donc au regard, faut toujours peser le pour et le contre, au regard des risques d'une déscolarisation qui frappe plus durement les catégories sociales défavorisées, je pense qu'il faut probablement essayer de garder les écoles primaires ouvertes avec des protocoles et essayer d'organiser, pour vous répondre, les cantines scolaires au maximum avec de la distance, élargir les plages horaires, etc. Peut-être que pour les lycées et les collèges, il faut avoir... dans un premier temps, peut-être une fermeture transitoire. Là aussi, donner une échéance et une réouverture avec peut-être du mi-temps. Je ne sais pas, mais il faut probablement, en dernier lieu, les écoles, il faut essayer de préserver au moins l'école primaire, peut-être le collège, avec des horaires aménagés.
Les transferts de patients d'Île-de-France vers d'autres régions, hélicoptères, TGV, ambulances ou autres, ça marche moyen ? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui s'opposent.
Alors, il y a d'abord le premier point, c'est qu'il y a assez peu de patients éligibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le variant britannique, qui est maintenant très majoritaire en Île-de-France et dans d'autres régions aussi, et malheureusement, et on l'a appris récemment, on avait des soupçons, mais on sait maintenant de manière très sûre qu'il est plus dangereux. Il rend plus malade. Les gens qui sont en réanimation sont plus lourdement atteints. Et donc, pour transporter un patient, faire plusieurs centaines de kilomètres, il faut que le patient soit dans une condition stable. Que le risque de dégradation pendant le transport soit faible. Et donc, quand on regarde ces critères, ils sont très stricts. Les réanimateurs ont des critères très stricts. La plupart des patients ne sont pas transportables. Et tant qu'il en reste, à peu près 10% qui peuvent être transportés. Et après, effectivement, il faut que les familles acceptent ce transport.
Oui. Ça ne vous irrite pas de voir, le porte-parole du gouvernement filmé devant des patients transférés ou pas? C'est quoi? C'est de la communication? C'est un hommage aux soignants?
Je le prends. Non, je ne suis pas irrité. Oui. Je pense qu'il est normal que les dirigeants viennent à l'hôpital soutenir les patients. Je le prends plutôt comme ça, les soignants. Et les patients et la famille, je le prends plutôt comme ça.
Bien. D'ailleurs, au passage, est-ce qu'il faut célébrer les soignants de l'hôpital public chaque année le 17 mars? Vous avez vu, c'est une proposition du président de la
Fédération hospitalière. Je pense qu'il faut les soutenir tous les jours de l'année, monsieur Bourdin. Tous les jours de l'année, on en a besoin. On a besoin de l'hôpital et des soignants tous les jours de l'année, il ne faut pas l'oublier.
Vous avez été l'un des premiers à alerter sur le manque de lits en réanimation avant le début de l'épidémie. Je me souviens, Rémi Salomon. Mais je regardais un chiffre en France dans les hôpitaux. 33% de personnel non soignant, 25% en Allemagne et 20% au Danemark.
De personnel non soignant?
Oui.
C'est-à-dire
que nous avons dans nos hôpitaux plus de personnel administratif que dans d'autres hôpitaux d'Europe.
Oui.
Pourquoi?
Écoutez, je ne sais pas vous répondre. Il est clair que nous avons, je ne veux pas me prononcer sur cette polémique entre administratif, soignant. On a besoin de tout le monde à l'hôpital.
C'est pas une polémique, c'est la réalité des choses.
Ce que je sais, c'est que il y a des conditions de travail qui aussi vont par un tout petit peu en arrière, avant la crise, des conditions de travail qui, au fil des années, depuis 10-15 ans, se sont dégradées parce qu'on a intensifié le travail et on n'a pas augmenter le nombre de personnel au regard de l'augmentation du travail. Et donc, forcément, la charge de travail est devenue plus lourde et les conditions de travail se sont un peu dégradées. Ce qui fait que, la conséquence, c'est qu'on a des problèmes d'attractivité. Oui. Les jeunes ne veulent plus venir, moins qu'avant, venir à l'hôpital. Et certains, au bout de quelques années, les infirmiers, c'est très vrai, au bout de quelques années, s'en vont. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on avait ces dernières années. Il est toujours là. Et la crise... doit nous au moins, si on a une leçon à retenir de la crise, c'est qu'il faut consolider l'hôpital. Donc je ne suis pas de ceux qui disent il faut doubler le nombre de lits de réanimation en quelques mois, ça n'existe pas. Il faut du temps pour former les professionnels. Mais il faut créer les conditions pour que dans les années qui viennent, on arrive à recruter plus de monde, pour que les gens travaillent dans de meilleures conditions, c'est-à-dire que les patients soient mieux soignés et qu'on soit en meilleure position pour la prochaine crise si elle devait arriver dans quelques années.
Alors, puisqu'on parle des patients, ça m'importe, ça vous importe? Est-ce qu'aujourd'hui on pratique le tri des patients en Île-de-France?
Non.
Non.
Nous n'avons pas, jusqu'à présent, juste depuis le début de la crise, nous n'avons pas trié les patients au sens où on l'entend, c'est-à-dire, on n'est pas passé loin fin mars, il y a un an. Il a fallu, les évacuations, on les a fait vraiment chaque jour, il fallait ouvrir des dizaines de lits. Donc on n'est pas passé loin de ça. ce que l'Italie du Nord a pu vivre. Après, les critères de...
Vous ne voulez pas revivre
ça. On ne veut pas, hein, surtout pas. Vous savez, surtout pas. Alors ça, c'est évidemment le pire qui puisse arriver. Oui. Si jamais on était dans une situation où on ne puisse pas accueillir des patients dont on pense qu'ils seraient en temps normal éligibles à la réanimation. Parce que certains ne le sont pas, parce que trop âgés, trop fragiles. Et donc, on ne met pas en réanimation quand on pense que les risques, plutôt les chances de s'en sortir sont infimes. Donc, on ne veut pas imposer une souffrance inutile à ces gens-là. Par contre, des plus jeunes, il faut qu'on puisse prendre ceux qui sont éligibles en temps normal jusque le plus possible.
AstraZeneca. On parlait des vaccins tout à l'heure. AstraZeneca, avantage supérieur au risque? Je ne sais pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron a succombé à une démocratie émotionnelle, comme j'ai pu lire ce matin dans l'Opinion, le journal L'Opinion?
Alors, c'est une
question. Est-ce qu'il est allé trop vite?
C'est une question très délicate.
La suspension.
Alors, c'est une question très délicate. Je pense qu'il faut se garder de réagir trop vite.
C'est pas un jugement politique.
Non, mais
c'est un jugement médical.
J'entends bien. Moi, sur le plan médical, pour vous dire les choses.
Oui.
Il faut faire la balance entre le risque et le bénéfice. Hein.
Oui.
Le risque d'arrêter la vaccination au regard du bénéfice à la continuer. Il est évident qu'il faut continuer la vaccination et qu'il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut, c'est celle qui nous sortira
du
bourbier dans lequel on est.
Mais vous regrettez
la décision sur AstraZeneca. D'abord, il faut rappeler que AstraZeneca avait mauvaise presse déjà.
Oui.
Vous savez, il est moins efficace que le Pfizer. Ce qui est pas vrai. Maintenant, on sait que sur des grandes études, sur des millions de personnes,
il est aussi
efficace que Pfizer. Il faut, alors juste, quand on a un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, on a ce qu'on appelle la pharmacovigilance. On est très attentif à tout ce qui se passe. Et donc on observe à la loupe tous les patients, il y en a des millions qui sont vaccinés. Et donc il y a eu effectivement l'observation de personnes qui ont fait ce qu'on appelle des thromboses, des petits caillots dans le sang. Ces thromboses sont un phénomène, c'est une maladie très fréquente dans la population générale, c'est 1 sur 1000. Donc si vous prenez par exemple au hasard...
Covid, c'est 1 sur 1000.
Covid, si vous prenez au hasard toutes les gens dont le nom commence par un D, et puis vous allez dire, je vais regarder ces gens-là. Là, vous allez voir des dizaines de personnes qui font des thromboses. Parce que c'est des événements qui apparaissent chez tout le monde. Donc là, il se trouve qu'on, comme on regarde les gens qui sont vaccinés, on trouve des événements qui peuvent se voir chez n'importe qui. Mais on les regarde à la loupe. Et donc, il y a eu peut-être un excès de précaution à dire, on a besoin de savoir précisément ce qui se passe, si c'est comme les autres personnes dans la population, ou s'il y a quelque chose de différent. Donc il y a des petites choses qui se disent, ah là il y a peut-être quelque chose de différent, il faut qu'on regarde à la loupe. Donc je ne peux pas jeter la pierre à ceux qui sont très prudents. Cependant, ma crainte, dans un pays comme la France, où beaucoup de gens sont hésitants, voire un peu défiants par rapport à la vaccination, je crains que les gens interprètent mal ce que l'on fait. Il faut regarder ça comme de la grande prudence, de la transparence, et j'aurais envie de dire aux gens,
vous regrettez,
faites confiance.
Mais disons clairement les choses, Rémi Salomon. Vous regrettez, médicalement je parle, vous regrettez que ce vaccin soit suspendu?
Ah, s'il était totalement suspendu, ça nous ferait un manque à gagner. C'est vrai que ça nous ferait perdre du temps.
Et pour les soignants,
parce que c'est celui
notamment.
Dont,
et pour les soignants,
sûr,
notamment.
C'est celui
déjà qui ne veulent pas se faire vacciner.
C'est celui dont on dispose aujourd'hui avec le Pfizer. Donc on a. C'est vrai que si on nous retire l'AstraZeneca, il faut attendre les suivants. C'est plusieurs semaines.
Et qu'on va perdre beaucoup
deux
de temps.
Mois, absolument. Donc j'espère bien qu'il va être remis. Donc là, l'Agence européenne du médicament est en train de regarder, il va donner un avis demain. J'espère bien, je pense qu'ils donneront un avis positif. Et surtout, je voudrais dire aux Français que il faut qu'ils voient cette démarche comme une démarche de grande prudence et que ça doit inciter plus à la confiance qu'autre chose. Vous voyez, on est très attentif à tout ce qui se passe, on transmet, on est dans la transparence et c'est ce qu'il faut faire.
Mais
que les gens comprennent et qu'on leur explique bien les raisons de cette suspension qui n'est que temporaire et qui, si on revient à la vaccination, c'est avec toute la prudence et il faut que les gens aient confiance.
C'est notre seule
planche de salut.
Oui, vous dites ça, mais c'est ce que vous dites aussi au personnel soignant.
Anne-Claire,
par exemple.
Je leur dis, bien sûr.
Quel est le taux
de
pourcentage des soignants vaccinés?
Les soignants sont un peu comme les autres Français. Il y a aussi de l'hésitation. Oui. C'est nouveau, on manque de recul. On entend ce qu'on entend partout. Les soignants sont des gens comme les autres. Sauf que, ce que moi je leur dis, c'est que vous n'êtes pas exactement des gens comme les autres, puisque vous travaillez à l'hôpital et vous devez aussi, avec le vaccin, non seulement vous protéger, mais protéger votre entourage, ce qui est vrai pour tous les Français. mais vous protégez aussi les patients qui viennent dans nos hôpitaux. Donc c'est aussi un devoir, et donc j'essaie de leur expliquer ça. Mais je suis très gêné sur cette stigmatisation des soignants.
Oui, mais je comprends.
Qu'on applaudissait hier, oui, et qu'on stigmatise aujourd'hui. Non, oui, attention, faites attention. Oui. Les soignants n'ont eu accès au vaccin que récemment, hein, au mois de février. Oui. Et puis, on voit bien que les doses manquent aussi. Hein, donc, il faut être prudent avec ce discours.
Rémi et Salomon, aujourd'hui, l'épidémie est capricieuse avec les variants. On a encore le cas du variant breton dont on ne sait rien pour l'instant, avec les variants, qu'il est de plus en plus difficile de fixer des repères et pour quand. Et pourtant, c'est ce qui nous manque, nous ne maîtrisons plus le temps. C'est tout le problème, nous n'aimons pas cela, ne pas maîtriser le temps. Nous perdons espoir car nous ne pouvons nous projeter dans le futur. C'est le problème majeur.
Qui pouvait imaginer, Jean-Jacques Bourdin, il y a encore un an, qu'on allait se retrouver dans cette situation? Personne. Ouais. Hein, c'était vraiment un truc incroyable qui nous tombe dessus. Et on a du mal à accepter ça, que nos vies soient à ce point bouleversées. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec un manque de perspective. Donc moi, je voudrais quand même donner un message d'espoir. Malgré tout ce qu'on a dit sur le vaccin AstraZeneca et d'autres, ils vont arriver. Ils vont arriver. Même s'il y a une petite crainte sur les variants qui pourraient effectivement rendre les vaccins moins efficaces. Je pense que cette crainte, elle doit être quand même relativisée. Les vaccins vont arriver en masse, il va y en avoir de plus en plus. Je pense que le printemps va être marqué vraiment par une augmentation considérable de la vaccination, y compris en France, et j'espère partout dans le monde. On en a besoin dans le monde entier pour maîtriser la pandémie.
Oui.
Et donc,
bien
on a
public,
des jours meilleurs.
Le vaccin bien public.
Je pense que, oui, l'idée d'un vaccin bien public, on fait pas de commerce avec du vaccin, hein, qui doit nous sauver l'humanité. Je pense que cette idée-là doit faire son chemin. Et donc, cet été, nous allons sortir du tunnel. On a juste 2-3 mois un peu compliqués à passer. Il faut serrer les coudes. On n'a pas le choix. Vous savez, l'hôpital, nous, on accueille les patients, on n'a pas le choix. Certains disent, cette dictature sanitaire, c'est les hospitaliers qui dictent nos vies, c'est insupportable. Oui. On est content quand on a fait un infarctus du myocarde, qu'on a un accident de la route, d'être accueilli à l'hôpital. Et nous, on va pas décider de prendre ou pas prendre. On prend. Les patients qui viennent, on les prend. Donc, espoir. Ça va. On va s'en sortir. 2-3 mois encore un peu difficiles et ça va aller.
Merci Rémi Salomon d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV 8h55.